Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Nous sommes tout bons. Bonjour Pauline, comment vas-tu ?
Ça va bien, merci.
Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Je suis ravi de te rencontrer.
Plaisir partagé.
Comme je t'ai dit, c'était pas une interview facile à préparer pour moi. Ça a remué beaucoup d'émotions, à la fois en tant que père, aussi je t'ai dit en tant que comme hétéro, privilégié. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et puis une des raisons aussi pour lesquelles j'ai été un peu troublé, c'est que tu as fait d'autres podcasts dans lesquels tu racontes en détail un peu ta vie, ton parcours. Et je les ai téléchargés juste avant de mettre les pieds dans un avion pour Yaoundé.
Oh.
Et je les ai écoutés pendant les 6 heures de vol, tu vois. Donc je suis arrivé avec certains a priori et préjugés sur le Cameroun un peu particulier, je te cache pas.
Ah oui.
Voilà. Bon, avant de rentrer, de parler de plein de choses, et je suis sûr que cette conversation sera brillante et aussi pleine d'apprentissage et de bons messages à faire passer. Il y a une première question que je pose à tous les invités et toutes les invitées, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
En tant que spectatrice, tiens, j'étais toute jeune. Hein, bon, on va dire que j'avais même pas 5 ans par là à peu près. Mais bah, écoute, c'était les combats de Mohamed Ali, forcément. C'était la star... à la maison comme la star interplanétaire, on va dire, de la boxe des années 70-80 au moins. Ben, en fait, moi, je suivais beaucoup, forcément, Mohamed Ali, oui, la boxe, et le foot, Pelé. Voilà, mes premiers souvenirs, il n'y avait que ça à la maison, donc le football, la boxe.
Jamais eu de rôle modèle féminin ?
À cette époque, non, il n'y en avait pas en France, pour la bonne raison que moi, je dois incarner... la première génération des métisses, avec des papas de la génération de mon père, c'est la génération de l'indépendance du Cameroun, justement. Il faudra me dire d'ailleurs pourquoi les a priori dans mon pays d'origine. Et voilà, et ma mère française, qui était de Chalon-sur-Saône, elle est née là-bas, du moins. Et donc je pense que les rôles modèles, il n'y en avait pas encore, en tout cas de la diversité, il y en avait pas beaucoup non plus dans ces années-là. Donc, pour moi, il n'y avait que dans ce petit poste de télévision que nous avions, que c'était les toutes premières télévisions d'ailleurs, hein. Mohamed Ali et puis Pelé, et puis bien sûr d'autres champions, parce qu'il y avait Saint-Étienne, les Verts avec Platini, après il y avait Beckenbauer avec l'Allemagne, enfin petit à petit, hein, je regardais parce que mon père est ancien footballeur professionnel aussi. Et puis, il y avait quatre garçons à la maison. Et puis, de toute façon, c'était les sports préférés de notre père.
C'est lui qui dictait tous les rythmes. Puis qui dictait aussi, enfin, au-delà du sport et du contenu télévisé, t'as l'air de... Je comprends dans tes paroles qu'il imposait beaucoup son rythme et ses goûts.
Ben, oui, tout à fait. Il était très dominant, on va dire, hein, par rapport à ma mère, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, c'était ma perception. Qui c'était l'homme patriarche dominant. Ma mère était très effacée. Et puis, c'était l'époque où la femme était la femme au foyer, s'occupait des enfants, faisait le ménage. Et finalement, c'était dévalorisé, alors qu'en fait, c'est un métier quand même. D'ailleurs, elles ont dû développer... Aujourd'hui, on dirait qu'elles ont... Je pense qu'il y a plein de compétences qu'elles ont dû développer qui sont transférables, hein, puisque c'est... Pour moi, j'estime que c'est comme une mini-entreprise, hein, à gérer. Et puis, en plus de ça, il fallait gérer, entre parenthèses, son époux à son retour, qui mettait les pieds sous la table. Enfin, voilà, c'était vraiment le portrait type des couples de l'époque auxquels on voulait surtout... Enfin, je ne voulais surtout pas... ressemblait.
Je peux comprendre que ça ne fasse pas rêver. Quelle relation, du coup, t'entretiens avec tes frères ?
Alors moi, j'étais très protectrice avec mes frères. Je suis la seconde d'une famille où il y a 5 enfants, donc 4 garçons et moi. Avec mon frère aîné, j'étais très proche et je le suis encore. Celui qui, après moi, nous étions très proches, plus jeunes, et puis après, nos chemins se sont un petit peu distanciés parce que j'ai aussi été accaparée par ma carrière sportive. Mes petits frères, ben j'avais plutôt tendance à être la grande sœur qui protège beaucoup.
Ok. Beaucoup de sport avec eux, il me semble ?
Pas tellement, parce que, ben si, peut-être quand on était plus jeune, enfin pas avec mes deux derniers frères, parce que même si on a tous un nombre d'écarts, il y avait un gros écart quand même avec eux. Mais je jouais au foot. J'avais mes propres copains, je pense que je jouais aussi, bien sûr, avec mes frères, les jeux de société, Monopoly. Quelques petits tirs à crêpage, pas des crêpages de chignon, c'était des coups de poing, des bagarres. Il y avait parfois des bagarres typiques, enfin celles que les garçons, voilà, qui sont toujours qui étaient souvent dans le rapport de force. Donc je m'y suis mise, hein, aussi pour m'imposer.
Donc la boxe, c'était pas qu'à la télé, quoi.
Parfois, on a tendance, c'est vrai aussi que je regardais, quand c'est vrai qu'on parlait du sport, mais je regardais aussi les films dits masculins ou même les BD comme Zambla, Tarzan, Corto Maltese, les films de KPDP. C'est ce qui me plaisait le plus. Enfin, j'ai été nourrie à ces films-là où la femme avait toujours un rôle secondaire et pas du tout combattante. Donc moi, je me suis construite à travers cet univers, on va dire, dit masculin.
Ok. Peut-être dernière question, celle-là peut-être un petit peu cliché, mais t'as grandi dans le 93. J'imagine 5 frères. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui font des bêtises ? Si tu dis que t'es protectrice avec eux, peut-être que ça peut être aussi... Enfin, moi, en tout cas, je vois aussi que dans les quartiers, et j'ai grandi à Montreuil, tu vois, donc c'est pas si loin. Je le cache pas, c'était le coin le plus privilégié de Montreuil, mais il y a quand même des clichés. Et c'est vrai que dans ces quartiers-là, il y a quand même une culture assez patriarcale aussi, où les garçons font un peu plus la loi, c'est un peu plus celui qui parle le plus fort, celui qui tape le plus fort sur la table. Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé aussi autour de toi, à l'école, ou chez les voisins, ou même au club de sport, tiens ?
Nous, c'est les années 70. Donc moi, je suis née à Paris 14e. J'ai grandi à Stein dans le 93. J'ai grandi à la Courneuve. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans. Suffisamment, bien entendu, pour déjà, d'une part, dans les valeurs et l'éducation que mes parents m'ont transmises, et plus particulièrement mon père. Pour lui, il y avait déjà à la maison, c'était l'égalité. C'est-à-dire quand ma mère... qui a été éduquée pour être une bonne épouse, faire les études jusqu'en même pas le brevet des collèges, là. Elle, c'est elle qui m'imposait de devenir comme elle, finalement. pour devenir une bonne épouse plus tard, alors que j'avais pas envie. Mais mon père, lui, c'était l'égalité. C'est, tout le monde devait contribuer, mes frères comme moi. Ensuite, pareil, il m'a armée pour me défendre, contre les dangers extérieurs et même au niveau des garçons. Donc, j'ai pas été forcément genrée, on va dire, avec des poupées, etc. Bien sûr qu'il y avait, il y avait une vraie mixité sociale à notre époque, de l'entraide. Mais effectivement, il y a des cultures espagnoles, portugaises, qui étaient dans notre cité, et même polonaises, françaises, afro-descendants, comme on dit aujourd'hui, mais Afrique subsaharienne d'origine, ou Maghreb ou Italie, les hommes étaient toujours... c'était déjà une société matriarcale, et les femmes... de cette génération-là, étaient femmes mères au foyer. Très peu d'entre elles, j'ai vu en tout cas très peu d'entre elles être indépendantes, même s'il y en avait. Et puis ensuite, en ce qui me concerne, j'étais autant respectée par les garçons, parce que s'il y avait des bagarres, j'y allais. Si on touchait, alors ça, c'était aussi les codes imposés par notre père. C'est-à-dire que lui, il estimait que si on avait même nos amis, nos meilleurs amis, ne devaient pas toucher à l'un d'entre nous. Si quelqu'un attaquait l'un d'entre nous, on devait tous aller défendre le frangin ou la sœur se défendre. Voilà, pour montrer qu'on ne touchait pas à telle famille, au risque d'avoir des problèmes. Il y avait des codes d'honneur aussi dans notre époque. Hein. Par exemple, les plus âgés, même s'il y avait certains qui faisaient des conneries, ils n'autorisaient pas aux plus jeunes de le faire. Ils ne nous entraînaient pas du tout dans leur... dans leur délire, on va dire, et au contraire, on avait intérêt même à... D'ailleurs, on ne sortait pas à un certain âge, hein. On était hors de question qu'on soit dehors à 10 ans, 11 ans, 15 ans, enfin, après une certaine heure. Donc, il y avait plus de valeur, on va dire, quand même, et l'éducation.
Et tu fais déjà beaucoup de sport quand tu arrives au collège, tu vois, 10, 12 ans, tu es déjà très sportive C'est quelque chose qui te donne envie, déjà, pour le futur?
Bah, en fait, il y avait des cours de PS. Je crois qu'on disait de gym, quoi. Enfin je ne sais plus à l'époque. Oui, il y avait des cours de PS, mais moi, je n'aimais pas du tout, parce que c'était limité au saut en hauteur, saut en longueur, course. Enfin, je n'aimais pas du tout. Montée de corde, là. Voilà. Non, après, ça a basculé au basket, mais là, c'était un peu plus tard, et pas par le biais de l'école.
D'accord. À quel moment ton père a passé la barrière du pardonnable ?
Ah oui, alors moi en fait, effectivement, jusqu'à on va dire 14 ans et demi, j'ai eu une vie à peu près normale. Bon, elle n'était pas toute rose, mais elle était à peu près normale par rapport à l'enfer que j'allais connaître effectivement l'année de mes 14 ans et demi, où j'avais eu le bonheur d'intégrer l'INSEP, le tout premier sport-études. Dans 1976, donc j'étais en troisième. Et puis c'est dans la même année que mon père a commis l'irréparable et que ma vie est devenue un enfer. Et là, ça a été quand même sacrément dévastateur parce qu'on ne s'attend pas à une chose pareille. Et notamment, ça a été mis en place petit à petit. Hein. Il y a l'emprise, la menace, le chantage... La menace, c'est de me retirer de l'INSEP, et il y avait tout type de menaces. Donc, ça a été très, très difficile, d'autant que plus difficile que j'en ai parlé immédiatement à ma mère, dès qu'il y a eu un tout premier signe. Hein. Je n'ai pas attendu que mon père aille si loin, parce que j'ai quand même sacrément résisté. Mais à un moment donné, à 14 ans et demi, on a des limites quand on est violenté aussi, physiquement. Enfin, toutes les violences physiques, psychologiques, tout y passait. Pour briser la volonté. Hein, c'est facile de le faire sur un enfant ou une jeune fille. Un jeune, hein, c'est très facile pour un adulte de le faire.
Surtout sur son propre enfant.
Surtout, et même sur un autre enfant, ben, de toute façon, ou quelqu'un qui est en position de vulnérabilité, hein, de toutes les façons. Et donc, ma mère n'a rien fait. J'en ai parlé autour de moi, bien que mon père... m'interdisait, me faisait comprendre que personne ne me croirait de toute façon, puis que ça ne servait à rien d'en parler. Mais moi, j'ai parlé, j'ai continué. Donc,
dès très jeune, tu as fait ce choix
Très rapidement, ouais. Oui, parce que pour moi, c'était trop violent. Enfin, et puis, comment dirais-je, j'étais à la fois dévastée, mais à la fois absolument pas outrée. Puis bien, le mot est beaucoup plus fort que ça, mais pour moi, c'était quelque chose que je n'allais pas laisser passer. Dussé-je me battre toute ma vie, s'il fallait. J'avais déjà la rage. Enfin, voilà, finalement, je me dis, mon père m'avait éduqué pour être une guerrière et j'avais cette rage intérieure, mais qui me bouffait de l'intérieur, en fait. Donc, en gros, bon, j'ai tout essayé, parler. J'ai même voulu aller voir la police. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvée devant le commissariat. J'ai eu un flash. Enfin, je n'imaginais pas vraiment mon père en prison, ni ma mère. Et puis, c'est vrai que j'avais peur pour mes frères aussi, hein, qu'ils aillent à la DAS, qu'on les enlève. Et je pense qu'ils n'étaient pas encore conscients de ce qui se passait, de la situation. Donc, j'ai pris sur moi de les préserver dans leur sphère familiale et puis moi, de me battre avec mes moyens. Et puis, malgré tout, j'ai eu quand même... C'était tellement violent que ça ne m'a pas empêché d'avoir des pensées suicidaires. Comme toute victime de viol, d'inceste, les enfants. Donc, oui, c'est une partie de mon adolescence qu'on a tuée, une partie de moi que mes parents, mon père a tué. Je dis mes parents parce que j'ai mis dans le même sac les complices, c'est-à-dire le parent qui ne fait rien. Je l'associe à celui qui a, aux parents violeurs, quoi, on va dire. Je mets des mots forts sciemment, hein, parce que moi, c'est des viols.
Tu as raison d'appeler les choses par ce qu'elles sont. Tu vois.
Ouais, parce que ce sont des mots que ressentent la plupart des victimes. Donc oui, il y a eu des pensées suicidaires et tout. Puis effectivement, ça a été dur en plus avec le sport à côté, où il a fallu que je donne le change, alors que dedans, intérieurement, j'étais en pièces. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait moi-même. Personnellement, je ne sais pas... Je me dis toujours, il y a des gens qui ont plus de force par rapport à d'autres, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas tous effectivement égaux face à ce genre d'épreuve. Et puis après, il y a eu un entraînement, je dis 16, 17, parce que parfois les souvenirs, j'ai encore ce qu'on appelle le problème de mémoire traumatique. Hein. Il y a des flashs qui viennent, et puis après je me dis, est-ce que c'était 16 ans, 17 ans, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. Et là, après un entraînement, effectivement, je me suis effondré, j'en pouvais plus. Après un entraînement intense, plus l'intensité de ce que je vivais, ça m'a fait péter un câble. Et vraiment, là, je me suis effondré. Et puis, c'est vrai que mes entraîneurs, là, j'ai eu une chance inouïe, quoi. Donc, mes entraîneurs m'ont vu, m'ont demandé ce que j'avais. Bon, j'ai carrément dit, je veux me suicider direct. Hein. Donc, ils ont bien vu que j'étais dans un état. Donc, ils m'ont accordé leur écoute, la première fois qu'on m'écoutait. Avec bienveillance, sans jugement. Et puis, sincèrement, déjà, cette première, de recueillir la parole et de garantir une écoute, comme je dis, à une victime, c'est énorme, en fait, déjà. C'est important, d'autant qu'on ne l'a pas forcément dans l'entourage familial. Donc, pour moi, ça a été la première fois qu'on m'écoutait. Et la deuxième chose qui m'a énormément soulagée, c'est qu'ils aient décidé d'aller rencontrer mes parents pour discuter avec eux de cette situation. Donc ça a été... bien que intérieurement, moi, j'y croyais que très peu, mais effectivement, ils sont revenus en cas désespéré. On m'a souvent demandé pourquoi ils n'ont pas fait intervenir la police, mais pour les raisons que j'ai évoquées plutôt pour moi-même. Je ne vois pas, je ne voulais pas. Je n'imaginais pas mes parents en prison, mes frères, et puis ça vient se rajouter... aussi parce que je pensais au plus profond de moi-même qu'ils ne m'auraient pas cru, parce que ça aurait été parole contre parole. Voilà, donc ça aussi, c'est une des raisons. Voilà, et en tout cas, mes entraîneurs, avec moi, on a mis en place... ils m'ont soutenu, on va dire, dans mes stratégies d'évitement.
Ouais, donc c'est ça que tu mets en place.
Ouais, voilà. Ouais, parce qu'en fait, je rentrais à la maison une fois toutes les deux semaines... Parfois, on ne pouvait pas éviter. Donc, l'été, parfois, après, entre deux stages, entre deux compétitions internationales. Mais ça a beaucoup aidé. Et puis, moi, je me suis vraiment... Là, j'ai compris qu'il fallait que je focus à 100% dans le sport, que c'était vraiment le billet vers ma liberté, mon émancipation, mon développement. En plus, c'est vecteur de développement personnel et d'épanouissement. Donc d'un côté, j'avais un papa, enfin un papa, j'aime pas dire le mot parce que même encore aujourd'hui, mes géniteurs, j'arrive peut-être par moment, je dis mon père, ma mère, mais j'ai beaucoup de mal parfois parce que pour moi, ils ont perdu ce. Enfin, je les sens plus depuis ce moment-là, comme étant. J'ai plus ce lien filial dont on parle. Donc toujours est-il que. Ah oui, donc en fait, je me suis accrochée et puis. Je savais qu'il fallait que je me donne à 100%. Et puis après, pour 17 ans et demi, j'ai eu mon premier contrat pro dans l'année de mes 18 ans. Hein. Quand je dis 17 et demi, je suis née en mai. Donc les fins de saison, c'est en juin. C'était en juin, fin de saison à l'époque, début juin, fin mai, début juin. Et donc voilà, j'ai eu un premier contrat, donc un appartement. Mais bon, malgré ça... Il a fallu, après quand je suis partie aux États-Unis, j'ai dit aussi ouf parce que ça m'était un océan aussi. Donc en fait, à chaque fois que je menais ma carrière, il y avait quand même ce fantôme intérieur, ces tourments intérieurs. Donc où je faisais tout pour me libérer aussi de l'emprise parce qu'il y avait quand même malgré tout l'emprise.
Ok. Il y a une question que je voulais te poser, vu que c'était les premières personnes à t'écouter, c'était tes entraîneurs, donc ton entourage sportif. Tu es dans un sport collectif. Parfois, les secrets sont bien gardés, des fois beaucoup moins bien. Je ne sais pas quelle a été ta situation, mais comment est-ce que tu gères le regard des autres ? Parce que je me suis beaucoup intéressé, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, aux conséquences que peuvent avoir des viols sur des femmes et sur des hommes. Et tu vois, souvent, il y a un gros sujet sur le regard des autres qui peuvent te considérer comme une victime et qui ne te voient plus comme une femme ou comme un être humain. Qu'en a-t-il été pour toi ?
Moi, j'ai... J'étais victime enfant, je n'étais pas en capacité de me défendre et je suis passée de victime à survivante et de survivante à combattante aujourd'hui. J'ai toujours eu au fond de moi, déjà de ne pas me positionner en victime, était, pour moi c'était hors de question. Je ne voulais absolument pas que mon père gagne sur moi en fait. Et donc je pense que moi je vivais ça en parallèle de la compétition où on doit être fort, on doit être humble dans la victoire mais on se laisse jamais on est peut-être battu mais pas abattu et puis c'est pas un échec, c'est un enseignement, enfin voilà, moi le sport m'a renforcé ça aussi. Pour moi, il était hors de question que je sois victime. Et je me suis, ça va peut-être vous faire rire, mais mes films de héros, où le héros parfois est blessé et victime, peut-être parce qu'on l'a pris en traître. Où voilà, on a tué sa famille et puis il est dévasté. Et puis à un moment donné, il se reconstruit. Et ce qui ne tue pas renforce et le héros devient redoutable. Et comme moi, c'était les films, comme je disais, masculins que je regardais beaucoup. Enfin, les héros masculins, parce que j'avais pas beaucoup d'héroïnes combattantes. C'est venu un peu plus tard avec les super Jamie, Wonder Woman. Enfin, ça a commencé à venir comme ça. Mais malgré tout, moi, j'étais très. Clint Eastwood, le justicier. Je regardais Charles Bronson, j'adorais. Enfin voilà, ces films-là. Donc moi, j'ai eu ça en moi en me disant si tu me blesses, achève-moi parce que quand je vais me redresser, je vais être redoutable et ça ne veut pas dire que je vais rendre, bien entendu, mais je vais être plus forte. Je me suis jamais positionnée du tout comme victime et puis j'en ai pas non plus parlé pro. Non, j'en parlais à quelques amis proches, par moment, parce que par moment, j'y pensais plus. J'étais accaparée aussi par le sport. Ça prend 100% de toute notre vie, on va dire.
C'est un excellent exutoire pour ça, quoi.
Si on veut, c'est parce que, ça attire l'esprit. Quelque part, on enfouit aussi des choses qui sont là, tapis. On a l'impression, enfin moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment, comme j'y pensais plus, que ça y est, ça allait mieux, mais en fin de carrière, c'est ressorti, quoi, la fameuse mémoire traumatique ou l'amnésie traumatique qu'on peut faire. Et j'ai dû chercher, j'ai dû me faire accompagner, j'ai dû lire, j'ai dû... je suis tombée, quoi, en fait, quelques années après. Donc, non, c'est jamais fini, c'est jamais fini. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on apprend à vivre avec, mais le sport, effectivement, est bénéfique, hein. C'est clairement bénéfique dans son parcours, hein, de reconstruction avec des spécialistes. À notre époque, on n'avait pas des spécialistes de l'inceste. D'ailleurs, il y en a quelques-uns maintenant, mais il n'y en avait pas. Donc, c'était très tabou. en plus, encore plus. Donc, moi, j'ai dû chercher seul, ou parfois c'était aux États-Unis qui s'en parlent. On était très en avance. Moi, j'y suis allée dans les années 80. Déjà, là-bas, c'était plus facile d'en parler, de voir des gens. J'ai même un ami qui me disait, qui était mon chéri de l'époque, là-bas, un Français que j'ai rencontré ce week-end, qui me disait, mais tu pleurais beaucoup, tu m'en parlais beaucoup, et j'étais étonnée, je m'en souviens pas. Donc, j'avais à l'époque 21 ans. Et j'ai dit, mais il faut que tu me dises, parce que justement, je suis en train d'écrire et je fais une immersion totale dans ce passé pour pouvoir faire ressortir les choses et faire de cette histoire un engagement pour aider les autres.
Bien sûr. En parlant d'aider les autres, tu as été une des premières sportives, tu vois, à témoigner justement sur ton histoire. J'imagine que beaucoup de femmes ont dû te solliciter. Peut-être, peut-être pas. Genre... Mais qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui vient te voir en te disant bah voilà, j'ai 15 ans et elle te raconte une histoire similaire à la tienne. Et qu'elle te dise aussi que toi, derrière, peut-être en apparence, mais tu as réussi beaucoup, beaucoup de choses. Tu as transformé cette colère en une force, je pense. Indestructible.
Derrière la force, il y a la vulnérabilité, bien sûr. Non, c'est une force qui impacte, un impact positif, je l'espère, comme ma colère, je la mets au cerveau, enfin, comme la colère ou la rage qui a été canalisée par le sport, hein, heureusement, pour transformer ça en rage de vaincre, on va dire. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à une jeune fille qui viendrait vers moi ? Donc, effectivement, j'en ai déjà eu qui sont venus vers moi après avoir révélé mon histoire. J'en ai eu quelques-unes. J'ai senti que certaines... Et ce que je dirais même à ceux qui encadrent, hein, qui sont proches, c'est la même chose. Moi, j'en ai une. J'ai senti tout de suite qu'elle n'était pas arrivée à l'étape où moi, j'en suis. C'était encore très... Ça, j'arrive à le cerner. Donc déjà, il faut prendre beaucoup de recul. Même moi, j'en prends hein, beaucoup pour ne pas se laisser impacter émotionnellement. Même si on est un frère, une sœur et tout, je sais que ce n'est pas facile. Sur le moment, ça touche. Parents, mais ce n'est pas facile. Mais bon, déjà, il faut prendre beaucoup de recul et écouter l'autre et recueillir la parole. Recueillir la parole parce que je dirais, si je parle à la victime, je dirais, j'espère que tu as quelqu'un qui sait écouter autour de toi déjà. Si tu n'as pas dans tes proches quelqu'un qui est en capacité de recueillir ta parole, aujourd'hui, tu as des spécialistes qui sont là pour le faire, des associations. Donc, il faut aller voir parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes et nous, on ne peut qu'être que le premier rideau quand on n'est pas spécialiste. Mais on peut écouter avec bienveillance parce que ça peut sauver une vie. Et moi, je dis toujours, écouter peut sauver une vie, comme mes entraîneurs m'ont écouté. Sinon, moi, je partais de l'autre côté. De toutes les façons. Donc, où j'orienterai la personne pour ne pas me laisser envahir parce que c'est très prenant et je le sais. Ensuite, si c'est l'encadrement, bon, moi déjà, je voudrais dire que je me réjouis que la société écoute enfin parce qu'on dit souvent libérer la parole. La parole a toujours été libérée. La victime s'exprime, qu'elle soit 2 ans, 3 ans. 14 ans, la victime appelle au secours à sa façon. Certains ont les mots, d'autres par des attitudes, surtout quand c'est plus petit. On voit tout de suite un changement d'attitude. Donc si on est très proche, très à l'écoute et bienveillant, on doit être en capacité d'identifier ces changements et de s'intéresser, d'aller voir la maîtresse, d'aller voir, je ne sais pas, ou essayer de faire parler l'enfant, ou en tout cas l'amener tout doucement à s'embrusquer. À ce qu'il parle et à recueillir cette parole. Donc, je dirais que je me réjouis que la société écoute enfin, sorte enfin de son déni, qu'elle entende enfin aussi et qu'elle soit aujourd'hui, comme je dis, à l'écoute. C'est bien de recueillir la parole, mais il faut garantir cette écoute aujourd'hui aux victimes. C'est ce dont les victimes ont le plus besoin. Donc là, je parle à la fois... pour les deux, hein, pour la victime et la société. Donc la société, c'est nous. Et c'est un fléau mondial quand on sait que maintenant, ils sont 2 par classe hein, d'enfants victimes d'inceste. Que le viol, on parle de 90%, c'est intrafamilial, c'est un proche. les violences sexuelles ou le viol, la pédocriminalité, 90% c'est intrafamilial. Je crois que je ne veux pas me tromper, mais une grosse proportion les filles. Mais en même temps, je ne veux pas occulter les garçons, parce que là, on dit qu'il y a plus de 6,7 millions Français qui ont été victimes de l'inceste ou qui disent l'avoir été. C'est sans compter ceux qui n'ont pas encore parlé, qui ne se sont pas encore dévoilés, ceux qui sont morts, ceux qui sont invisibilisés dans les débats, donc les personnes handicapées, les afrodescendants et bien d'autres, par ces garçons aussi, parce qu'on dit on s'arrête à des chiffres. Non, il ne faut pas s'arrêter à des chiffres. Il y a des garçons, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'en parler. Donc, ils sont certainement très nombreux. Plus il y aura de garçons qui parleront aussi. J'en vois quelques-uns par-ci, par-là, dans des petites vidéos. J'ai le droit de dire brut. Parce que ça m'intéresse de les écouter. Je vois quelques reportages. Ça m'intéresse de les écouter, toutes ces victimes, savoir où elles en sont. Et je me retrouve aussi parfois en elles, là, à une époque où je n'ai pas su mettre des mots sur des mots. Donc, il faut aller au-delà des chiffres. Faut aller, mais en tout cas, je me réjouis que la société se saisisse. Et le sport aussi. Qui est ma famille, qui est ma passion.
Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de tabous dans le sport.
D'omerta.
Tu parles d'omerta, toi, ok.
Omerta. de l'omerta, oui. Il y a un peu trop à mon goût. Oui, c'est pareil. Moi, j'ai toujours, comme dans les familles, comme dans le sport, je n'ai jamais compris pourquoi on mettait sous le tapis des crimes commis sur des violences sexuelles ou voire même comme dans les familles, au prétexte qu'on voulait préserver l'image. Pour moi, préserver l'image, c'est l'inverse. Pour moi, préserver l'image d'un sport qui véhicule des valeurs universelles ou même dans une famille qui transmet des valeurs éducatives, c'est justement de ne pas accepter ce genre de choses et de protéger les victimes et de mettre les agresseurs hors d'état de nuire, quoi. Les envoyer soigner ou en tout cas à ce qu'ils aillent d'eux-mêmes se dénoncer ou alors de les signaler, ça c'est clair. Ça c'est préserver l'image pour moi du sport et l'intégrité aussi des athlètes, des jeunes, des individus, des personnes, quoi, en général.
Il le faut. Il y avait une question peut-être que je voulais vraiment te poser. Elle était assez difficile à formuler. Si tu veux, tu prendras ce que je dis et tu l'interpréteras comme tu le veux, mais tu es libre. Tu as eu une enfance avec beaucoup d'influences masculines. Tu vois, un entourage très masculin, des sports masculins, une attitude masculine, un entourage, voilà. Il t'est arrivé un traumatisme. Ensuite, il y a le sport de haut niveau où aussi, quand même, les filles, parfois, je trouve, en tout cas, peut-être c'est en train d'évoluer, mais peut-être que dans les années 80, la féminité d'une sportive n'était pas forcément un des sujets les plus abordés sur le rapport au corps.
Ah, c'est beaucoup trop.
Peut-être
même
dans l'image, mais tu vois, je veux dire, dans la performance.
Non. Okay. Ah non, non, justement. Parce que à l'époque, quand j'ai commencé dans les années en 76, c'était encore l'image. Le sport, c'était fait pour les hommes, par les hommes, avec des valeurs de virilité. Et la femme devait être douce, obéissante, soumise, enfin adorable, machin, avec des sports très élégants, très... c'était encore très comme ça. Donc, moi, je me souviens très bien que dans le basket, il y avait des clichés, dans le handball, le judo, pratiqué par des femmes, c'était justement, on attaquait notre intégrité, que nous étions pas féminines, que c'était des sports de lesbiennes, que c'était... la place des femmes était à la cuisine. Au contraire, la féminité, ils en ont beaucoup, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous n'étions pas féminines. Donc, des athlètes comme moi, qui étaient médiatisés dans les années 80, dans mon sport, c'était parce que j'incarnais la féminité dans le sport et non pas le sport féminin qui aujourd'hui avance vers le dégenré. Il n'y a pas de sport féminin, mais on est passé de la féminité dans le sport au sport féminin et maintenant on va enfin dire le sport tout court très prochainement. Donc non, on est au contraire, et c'était les filles étaient sexualisées très, tout à fait. Donc si on voulait avoir les mêmes droits que nos homologues masculins, il fallait qu'on soit plus féminine si on voulait être plus médiatisée. fallait qu'on soit plus féminine. Qu'est-ce que ça voulait dire être plus féminine? Eh bien, satisfaire certainement le fantasme de 90% des hommes qui géraient, qui gouvernaient le sport, quoi. Faire rêver, quoi.
Ok.
Ou fantasmer.
Mais du coup, ma question s'est formulée. Quel est ton rapport aujourd'hui à la féminité?
Ben, moi, en fait, c'est difficile parce que je dis toujours, je sais pas ce que c'est féminin, masculin, personnellement. Je bascule intérieur. Enfin, je suis pas genrée et en fait, c'est pas mon rapport, c'est être soi déjà. Enfin, pour moi, c'est je suis moi avec ce qui m'a construite. Donc, ma féminité à moi, c'est ce que je. Je sais pas comment définir ça. Parfois, je peux aussi. On peut me dire que j'ai des attitudes ou une façon de parler masculine. Pourquoi? Parce que le masculin, c'est autoritaire, virilité, force. Enfin, voilà, c'est des termes qu'on approprie aux hommes. Et il m'est arrivé effectivement de pouvoir avoir une attitude autoritaire quand j'ai affaire parfois à certaines personnes. Donc non, moi, je dirais que leader plutôt que ces attitudes de virilité, c'est plutôt personnalité. Une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a une personnalité qui... Je me suis jamais trop penchée là-dedans.
je t'avais dit que la question n'était pas évidente.
C'est quoi pour moi la féminité? Bah, c'est être moi. Voilà, ça va.
Voilà. C'est ta vision.
C'est ma vision de ma féminité à moi. Hein. C'est être moi-même.
Tu as battu beaucoup de records dans le basket français. Tu as été notamment pendant plus de 20 ans la joueuse la plus capée. Tu fais partie des meilleures scoreuses aussi. La première à être partie aux États-Unis. La première femme à avoir fait la une de l'équipe magazine. Je suis un peu ton palmarès médiatique et sportif.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un sortir autant femme de record, là où beaucoup de journalistes ou même encore des gens dans mon milieu me limitent à un record de sélection. C'est énorme.
Mais non, bah moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu plein de...
C'est la première fois que... Là, il y a un bon travail de recherche.
Bah, écoute, je t'ai dit que j'étais pas du tout journaliste de formation, mais tu vois, j'ai vu beaucoup de titres, j'ai vu une très grande championne. À quel moment, après le sport, t'as senti ce besoin de aujourd'hui t'engager? Parce que t'es très présente sur effectivement les inégalités dans le sport, notamment
collectif Alice Mia. Avec
exactement.
Oui, oui, tout à fait. Et dans le collectif Égal Sport aussi.
J'ai vu que tu avais bossé aussi un peu pour le CNOSF avec Sarah Ouramoun ou...
Non, en fait, c'était un programme dirigeante qui avait été mis en place quand elle était vice-présidente. Tout ce que je fais aujourd'hui est en lien avec mon histoire personnelle ou mon histoire, mon parcours. Oui, c'est en lien avec mes expériences. Et voilà, donc je l'étais déjà. Et là, aujourd'hui, il y a... C'est beaucoup plus officiel, mais j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais joueuse, quand j'ai vu que nous n'avions pas les mêmes primes que nos homologues masculins en équipe de France, quand j'ai vu que nous n'avions pas les mêmes salaires à l'époque, quand je voyais que les hommes, mes homologues masculins avaient des agents, donc moi je suis celle qui a aussi creusé le sillon et qui a eu le premier agent qui a amené ça. Dans le secteur féminin, donc j'ai contribué avec certaines de mes, bien sûr, collègues, coéquipières de l'époque, à faire évoluer la condition aussi des basketteuses dans cette démarche. Après, ça a été les combats pour être aussi plus médiatisés. J'ai œuvré aussi à mon niveau avec d'autres. C'est des combats invisibles, mais qui pourtant ont fait avancer les choses, en tout cas dans notre milieu. Après, l'engagement est venu tout à fait naturellement quand on m'a sollicité comme Égal Sport pour l'égalité, la parité homme-femme. Après, le collectif Alice Mia, bien sûr. Et puis ensuite, pour contribuer à faire bouger les lignes pour lutter contre les violences sexistes sexuelles dans le sport aussi, bien entendu. Parce qu'on parle beaucoup, comme je vous disais, des entraîneurs qui abusent des enfants, mais il y a aussi parmi tous nos grands sportifs, beaucoup d'entre eux qui sont victimes d'inceste et qu'il ne faut pas distinguer uniquement violence sexiste, sexuelle dans le sport, mais ouvrir le spectre et écouter aussi, recueillir la parole de ces sportifs qui aussi sont victimes d'inceste ou l'ont été. Donc ça aussi, j'en fais un engagement. Et puis,
Ok. Sur le collectif Alice Mia, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous résumer votre mission et un peu votre mode de fonctionnement, si on peut mettre un peu de lumière.
Alors le mode de fonctionnement, donc moi j'ai eu la chance d'être tout de suite cooptée ou sollicitée par Sport Market. En fait, c'est par Sport Market, François d'ailleurs Guyot, le CEO hein, ou fondateur, parce qu'il a de plusieurs casquettes, François. C'est par lui que j'ai été sollicitée pour intégrer ce collectif qui venait d'être lancé et soutenu par dont l'agence de com, je pense que c'est Sport Market. Hein, donc j'ai forcément dit oui tout de suite parce que la mission, on n'est pas. La mission, c'est être actif, hein, actif, soutenir bien entendu les actions de la fondation aussi, Alice Mia. Se rendre disponible quand on le peut sur des événements comme le prochain sur lequel je vais me rendre. C'est les deuxièmes assises du sport féminin à Bourges. Bourges qui a déjà initié les premières. Ça a été aussi de présider les deuxièmes trophées Alice Mia en octobre. Donc voilà, c'est aussi sensibiliser d'autres acteurs, actrices du sport à rejoindre ce collectif. Donc moi, j'en ai déjà sensibilisé deux. Isabelle Fijalkowski, qui est une grande joueuse, une grande dame du basket français aussi, championne d'Europe, plus jeune, et qui est présidente du Club des Internationaux de Basket. J'ai aussi une proche associée, Joëlle Montlouis, qui se trouve être aussi... vice-présidente de la Ligue Île-de-France de football et qui fait partie elle-même du collectif des 100 dirigeantes qui a été mis en place par Noël Le Graët à la FFF. Donc voilà, deux personnes qu'on a orientées. Donc voilà, ça, on a un rôle d'ambassadrice ou d'ambassadeur. Enfin, moi, d'accord. En tout cas, je le considère comme ça.
Mais écoute, c'est très bien et en tout cas, c'est une très belle fondation qui doit encore plus exister, qui doit en faire encore plus de bruit, parce que c'est le cas d'ailleurs.
Oui, c'est ce que j'allais dire quand même, parce que pour avoir réussi quand même, il y a dans la nouvelle arena, là à Paris, d'avoir même si elle s'appellera Adidas, d'avoir le parvis au nom d'Alice Mia, on voit également dans plusieurs régions des infrastructures sportives qui portent le nom d'Alice Mia, c'est-à-dire que la fondation œuvre pour réhabiliter cette grande dame du sport de l'époque du baron de Coubertin, une femme qui a beaucoup apporté au sport français, mais aussi international. Et puis qui œuvre pas pour valoriser aussi tous ceux, celles qui, dans l'ombre, œuvrent pour le sport féminin. Et puis l'égalité homme-femme, bien sûr.
Pour toi, ce serait quoi les priorités en termes d'action pour avoir un sport plus égalitaire entre les genres? Tu vois, j'écoute souvent des personnes qui sont un peu dans des bureaux, avoir des discours très politiques, c'est très péjoratif de dire ça, mais tu vois, des fois je trouve que ça manque de concret. Tu vois. Je te donne un exemple beaucoup plus concret. En tout cas, j'ai vu une VTTiste qui s'appelle Isabeau Courdurier. Et en fait, dans le VTT, les fédérations sont obligées de vendre aux médias des droits autant féminins que masculins. Donc les médias mettent en avant autant des femmes qui font du VTT que des hommes qui font du VTT. En fait,
ouais, la parité, quoi. L'équité, parité, égalité.
Ouais, exactement. Et en fait, vu qu'il y a autant d'espaces médias sur les hommes que les femmes, bah, les sponsors, ils sont autant intéressés par l'un que par l'autre. Du coup, les prize money sont les mêmes sur l'un sur l'autre. Et tu vois, il y a plein
des répercussions positives
qui s'enchaînent positives. Selon toi, tu vois, quel type d'action, un peu de ce type, faudrait mettre en place au plus vite pour que justement il y ait plein de répercussions positives vers un sport plus égalitaire? C'est pas forcément une question facile.
Je pourrais dire que déjà s'inspirer du VTT, c'est déjà une bonne chose. Hein, également, déjà s'inspirer de ceux qui sont avec qui ça marche. Après, pour moi. Je pense qu'en mettant un peu plus de femmes aussi dans la gouvernance du sport, ça va rééquilibrer un peu et apporter autre chose. Je pense aussi que les subventions, ce serait bien qu'elles soient partagées équitablement entre, là je parle des équipes de France notamment, et même quand il y a un club où il y a deux équipes, hein, on ne dit pas qu'on va gagner autant que les garçons, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance dans la mesure où c'est vers eux que tout l'argent allait et toute l'attention allait depuis des siècles. Ce n'est pas que nous soyons moins attractives, les femmes, c'est que tout l'argent allait, donc d'où ce déséquilibre. Ce n'est pas non plus qu'il y ait un désintérêt pour le sport féminin, il y a, mais après, peut-être aussi, aussi d'avoir le soutien des homologues masculins aussi, c'est-à-dire que les matchs féminins, en tout cas au basket, soient enlevés de rideau des garçons, et ça marche, puisqu'il y a eu, il me semble, deux fois, deux matchs de préparation des deux équipes de France, garçons et filles, qui se sont déroulés sur le même jour, le même terrain, et là... Voilà, ça peut attirer et intéresser évidemment des sponsors et de partager équitablement. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées, il suffit d'une bonne volonté. De professionnaliser aussi les filles, parce que chez nous, on dit que le basket est professionnel, mais c'est quand même encore une commission de la fédération. Donc ce serait bien aussi qu'elles soient professionnelles, qu'elles aient le même statut pro que les garçons, et pourquoi pas après... faire comme la NBA, la WNBA, voilà, une ligue pro-féminine et une ligue pro-garçon qui puissent travailler ensemble et faire des fois des matchs enlevés de rideau aussi, quand c'est possible, dans la même région. Enfin, y a plein d'actions qui me semblent nécessaires de mener et pas forcément difficiles. C'est pas difficile, c'est les mentalités qui doivent évoluer. Donc, on a depuis les années 80, moi je vois des avancées, mais il a fallu. On est en 2022, quoi. Donc, moi je suis témoin de vous dire que les avancées, on les a eues au forceps. Aujourd'hui, encore une fois, la société change, les mentalités évoluent, mais pas encore assez vite. Ça pourrait aller un peu plus vite.
Est-ce que toi qui as plus de recul que moi, en fait, moi je me dis que chaque jour avance plus vite que la veille, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vite. Alors certes, c'est trop lent, effectivement, mais en tout cas, c'est mon impression. Après, tu vois, j'ai 32 ans, je suis né en 90, il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues.
Si, si, on va plus vite. Parce que maintenant, c'est les hommes et les femmes ensemble. On a compris que c'était ensemble, que c'était pas l'un contre l'autre, c'était pas le but. Le but n'est pas d'être l'un contre l'autre, le but c'est d'être ensemble, d'offrir une meilleure, je dirais, humanité, une meilleure société plus égalitaire, bienveillante, plus humaine pour nos futures générations aussi. Il n'y a pas que pour nous, c'est pas pour nous qu'on doit construire, c'est aussi pour l'avenir. Voilà, une société, comme je disais, beaucoup plus juste, plus égalitaire, plus humaine aussi, bienveillante.
On y arrive.
Donc on y arrive parce que tout le monde, on est de plus en plus nombreux à surfer sur la vague, à en prendre conscience et il y a beaucoup d'hommes comme des femmes qui ont envie aussi que ça change aussi au niveau des hommes aussi parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être plus justes aussi.
Je ne vais pas te contredire. De leur encore plus dans le sport, tu vois, comme c'est...
Dans plusieurs domaines, hein, je pense
dans
que...
Dans plusieurs domaines,
oui,
effectivement.
Il
mais...
faut que ça s'équilibre... Pour les deux.
Oui, oui, on n'est pas là pour taper sur...
Sur une personne.
Du tout, bien au contraire. Mmh. Mais ouais, le vecteur, enfin le sport est aussi un vecteur beaucoup plus avancé, tu vois, sur les combats contre le racisme, tu vois. Enfin, c'est aussi, en fait, c'est aussi un théâtre où il se passe énormément de choses et dans lequel se retrouvent beaucoup de traits de caractère humain qui soient très positifs, qui soient parfois négatifs, parfois des vices, et tout se regroupe sur le même terrain.
C'est le reflet de la société, en fait, le sport. Et par contre, il a la capacité à faire bouger les choses beaucoup plus vite parce qu'il est, est porteur de valeurs universelles et il se doit d'être en phase et exemplaire par rapport à ces valeurs qu'on véhicule. Donc oui, c'est vrai que le sport, c'est le miroir de notre société et le sport a cette capacité à aller beaucoup plus vite et être exemplaire et de faire bouger les lignes à tous les niveaux.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. J'arrive à ma toute dernière question. J'aime beaucoup la recommandation de mes invités sur les prochaines personnes à aller rencontrer pour parler un petit peu de futur du sport, pour passer quelques messages. Toi, dernièrement, quels sont les athlètes qui t'ont inspiré et que tu me recommanderais d'aller voir ou des gens que tu apprécies particulièrement
Alors, j'en ai plusieurs. Marie-Jo Pérec. Yannick Noah, Michel Mouton, pilote de rallye, grande pilote. Ah ça, oui, je regardais parce que là, bravo, surtout dans les années 80, c'était très fort, grande championne. Isabelle Fijalkowski, bien sûr, Marie-Sophie Obama, Nicolas Batum, j'aime bien. Laurence Fischer pour son parcours sportif.
J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois.
C'est fait déjà ?
Ouais, bien sûr.
Bah, Laurence,
je t'enverrai l'interview.
J'en ai d'autres qui me viennent en tête.
C'est déjà très bien, en tout cas. Ça fait plein de...
Diandra, Cha Chuang aussi.
Que j'ai rencontré également.
Ouais. Voilà, bah, très bien. Chez les garçons, excusez-moi, Guy Forget, parce qu'on était dans la même promo INSEP et qu'il a fait un parcours formidable et que c'est une personne d'une humilité incroyable, avec un parcours exceptionnel. Henri Lecomte aussi, quand même, je le cite, qui était dans ma classe à l'INSEP, c'est ma promo INSEP, et son parcours incroyable. Et il y en a un autre qui est un peu plus dans l'ombre et qui était aussi avec nous à l'INSEP et qui a eu un parcours honorable dans le tennis. Bon, après, il y a aussi Loïc Courtois, hein, aussi, entre parenthèses, dans ma classe, donc les copains d'abord. Mais sinon, Moreton, Gilles, son parcours exceptionnel, Christophe Lesage qui était au tennis et qui se trouve avoir créé le plus grand tournoi de tennis amateur au monde depuis des années. C'est un succès fou, c'est à la grande motte et aujourd'hui j'ai vu qu'il avait venait de signer, ça devenait d'être intégré dans les tournois de la Fédération Française de Tennis et ça c'est une victoire exceptionnelle parce que ça fait des années. Il a dû développer de sacrées capacités de résilience qui montrent ce grand tournoi. Et il a été un athlète, un tennisman, un parcours honorable. Et... Parce qu'il n'y a pas toujours que des grands champions. Bon, après, il y a, j'aimais bien Angelo Parisi, à mon époque, que j'adorais. C'était en judo, vraiment. Thierry Rey aussi, qui était un grand champion, que j'aimais beaucoup. Il y a eu des femmes comme... Bon, elle est partie, Paulette Fouillé, j'aurais dit, mais c'était une grande dame. Brigitte Dédier, qui était une grande athlète, que j'ai aussi au parcours admirable, que j'ai vu devant moi, qui ont été inspirantes. Il y en a d'autres. Béatrice Barbus, bien entendu, pour ça a été une grande joueuse de niveau, quand même, de championnat élite France, et une grande dirigeante, enfin la première, la pionnière, et puis pour tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Oh, j'en ai beaucoup. Hein,
Je ne m'attendais pas à tant, écoute. J'ai rarement autant de générosité sur les noms, donc c'est très gentil de ta part.
Il y en a beaucoup. Et puis après, tout à l'heure, je vais repartir et je vais dire, ah mince, j'ai oublié. Kamel Chouareff aussi. Donc, voilà, des sports de combat aussi, comme Pascal Gentil aussi, qui a un parcours exceptionnel et assez une personnalité en couleur, haute en couleur. Je trouve qu'il y a un parcours assez atypique.
Ok, eh ben, écoute, je vais en prendre note en réécoutant tout ça. Je suis sûr que c'est que d'excellentes recommandations.
De ma part, hein, en disant ce que je pense ou en leur faisant écouter le petit bout s'ils doutent. Mais allez, les copains, si vous êtes sollicités par Simpson, allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Et on a envie que vous dévoiliez davantage voilà, que sur les réseaux sociaux. Ou dans les médias classiques. Merci les copains et les copines.
Bah écoute, merci infiniment à toi d'avoir joué le jeu de la transparence et de l'honnêteté. J'admire beaucoup ton courage, tu vois, d'en parler et la résilience que tu as pu avoir. Comme tu l'as dit, on n'est pas tous égaux face à ce qu'on traverse dans la vie. Et je pense que c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est à la fois la résilience et l'antifragilité. Comment devenir... plus fort après un événement traumatisant.
Fort et on garde, on est fort, mais on a toujours être fort. On peut être à la fois vulnérable et fort, mais c'est surtout comment transformer quelque chose de si sensible, hein, douloureux, en engagement. Et ça aussi, ça contribue à dépasser quand on le peut, comme je dis, ce trauma et au service des autres pour aider les autres, en fait. Que leur donner l'espoir qu'on peut s'en sortir.
Merci beaucoup.
Merci, Bart. Bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.